Aujourd'hui, à rencontre, un théologien et poète, Jacques Gauthier. Jacques Gauthier, vous êtes théologien, vous avez publié de nombreux articles sur des sujets même parfois très divers. Par exemple, vous avez écrit un article sur les sages-femmes. Vous êtes professeur de théologie, en réalité vous êtes professeur de théologie pastorale, un grand mot, on y reviendra. Mais vous êtes aussi marié, père de 4 enfants. Donc quand vous parlez de la famille, vous savez un peu de quoi vous parlez.
Oui, ben j'espère.
Mais c'est un cheminement chez vous. J'ai lu quelque part que vous aviez découvert la foi en Jésus lorsque vous aviez 21 ans, en 1972.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on voulait dire par là?
Bon, c'est certain que avant, j'étais quand même, j'ai été élevé dans une famille catholique. À l'âge de 21 ans, c'est plutôt une prise de conscience de cette présence du Christ en moi. On peut appeler ça conversion. C'était un moment radical là, dans mon existence qui fait que j'ai comme changé de direction. Ça a été un élément là, marquant qui s'est passé à Drummondville.
Mais vous avez changé de direction. Quelle était la direction que vous aviez
prise? C'est ça, la direction que j'avais prise, c'était plus le style peut-être du rap-out. C'était durant l'époque des Beatles, tout ça, la musique rock. J'avais les cheveux longs à ce moment-là. C'était une quête d'identité. Je me souviens, j'avais été voir au Forum de Montréal, l'opéra rock Jesus Christ Superstar. Mm-hmm. Et j'avais pleuré. Je trouvais ça tellement beau. Mais c'était la musique, surtout. Mais le personnage Jésus me fascinait énormément. C'était plutôt l'Église là, qui causait problème. Alors, je ne pratiquais plus. Mais dans mon enfance, j'ai eu quand même une éducation très solide. Mais ce soit durant l'adolescence, alors il y a eu une sorte de rupture, comme beaucoup d'adolescents. En fin de compte, on cherche. Et suite, justement, à un événement à Drummondville, là, dans une communauté de jeunes qui s'appelait à l'époque les Apôtres de Jésus par Marie, qui n'existe plus maintenant. Là, c'était quand même une communauté de base catholique. C'est 3 « Je vous salue Marie », si on peut dire, qui a changé, ce qui a fait que j'ai retrouvé peut-être le Dieu de mon enfance, qui est un Dieu de joie.
Et à partir de là, vous vous êtes engagé dans une quête, je sais que c'est un mot que vous aimez, dans une quête qui va vous amener à divers endroits. On vous retrouve, par exemple, à un moment donné, à l'Arche.
C'est ça. Alors, l'Arche de Jean Vanier, alors ça, c'est après, justement, 6 mois à cette communauté de base à Drummondville. La communauté, elle a éclaté, ça manquait de maturité. Mais moi, j'avais vécu quelque chose, là, et j'avais, justement, appris à connaître Jésus davantage, à travers sa liturgie, entre autres. Et c'était normal pour moi de continuer à suivre ce chemin-là que j'avais découvert. Et alors, ça me prenait une communauté, parce que, dans le fond, Jésus, ça se vit en église, ça se vit en famille. En tout cas, pour moi, c'était ça. Je ne voulais pas vivre ça seul. Et j'avais entendu parler de Jean Vanier. J'avais lu de ses livres. Puis c'était une personne qui me fascinait. Je voyais à travers lui une présence de Dieu, un amour de Jésus. Et alors, je l'ai rencontré à Québec. J'ai su qu'il était là. Et puis, on m'avait dit que c'était impossible de le voir, mais je me suis mis à l'accueil. Alors, je l'ai accueilli à un moment donné, et puis je lui ai demandé si il pensait, lui, que c'était la volonté de Dieu que j'aille à l'Arche. Alors ça, c'était un peu mon style à l'époque. Et même actuellement, c'est la volonté de Dieu qui m'intéresse le plus. Alors, on essaie toujours de discerner. Alors, à ce moment-là, lui, il m'a dit, « Ben, viens avec moi, là, je m'en vais au centre Charon tantôt, puis on va en reparler. » Alors, je suis allé en auto avec lui, puis il m'a dit, « Viens-t'en. » Alors, j'ai vécu à l'Arche de Jean Vanier 6 mois. Mm-hmm. Et ça m'a beaucoup aidé à avoir les 2 pieds sur terre.
Mais vous les avez eus si bien que vous êtes allé à la trappe.
Oui.
Alors, c'est une drôle de façon d'avoir les pieds sur terre.
Oui, c'est que, justement, c'est peut-être une façon, là, c'est qu'en vivant auprès des handicapés, en tout cas de ceux qu'on dit handicapés, parce que dans le fond, on l'est tous à un degré divers, c'est plutôt des personnes qui sont blessées dans leur intelligence ou physiquement, là. en vivant avec eux, j'avais besoin d'être rempli parce que on se donnait beaucoup à l'Arche. Et il y avait un tel attrait pour la prière que c'est ça qui m'attirait le plus. Alors, on avait des heures d'oraison à l'Arche. On appelait ça la ferme. Alors, c'était un bel oratoire. Et au centre, il y avait un mur qui était coupé. Et il y avait le Saint-Sacrement exposé le jour et je pense que la nuit aussi. Et alors, les assistants de l'Arche, bon, ceux qui travaillaient à l'Arche, à l'occasion, on s'organisait pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui priait là. Et c'est là que j'ai vraiment découvert l'oraison. Et bon, au fil des jours, des semaines, j'ai vraiment été séduit par le Seigneur dans le silence. Et pour moi, c'était normal que j'aille dans un endroit où on fait, disons, ça d'une façon spéciale.
Qu'est-ce que vous allez chercher, justement, à la trappe? Parce que vous êtes allé à Oka, disons, oui. Carrément.
Oui, alors là, ben moi, quand j'étais en France, là, j'ai, à un moment donné, j'ai tombé malade et puis j'ai abouti à l'abbaye de Bellefontaine, qui, sans le savoir, a fondé Oka. Mm-hmm. Alors, j'ai vécu là 2 semaines et c'était dans une sorte d'exaltation. Je découvrais un monde pour un jeune qui sortait de la contre-culture de mai 68. Puis bon, découvrir le monde monastique, c'était exaltant parce que je sentais que c'était vrai. Et alors, dans mon cœur, il y avait un appel pour vivre ce genre de vie-là. Alors, je suis retourné au Québec, d'autant plus que le frère de Jean Vanier était moine à Oka. Et c'était le monastère qui avait fondé Oka. Alors, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup de monastères au Québec. Alors, Oka, c'est quand même le grand monastère. Et je suis allé là et je suis resté 4 ans.
4 ans?
4 ans. Alors,
qu'est-ce que ça représente, cette expérience de 4 ans oui. de vie monastique, contemplative, oui. dure quand même? Oui. C'est pas une vie facile, oui. la vie des trappistes.
Ce que je retiens de ces années-là, c'est la liberté intérieure. C'est peut-être le fruit que je savoure le plus. Parce qu'après ça, j'ai senti que j'avais une grande liberté intérieure et je la sens encore. Et quand j'ai entrepris des études théologiques, c'était la même chose. De toute façon, ce monde-là d'assaise, de prière, justement, m'a donné une sorte de liberté intérieure. C'est très difficile à dire. De toute façon, on peut pas... 4 ans, là... Bien, de toute façon, je suis sorti. C'est un rythme de vie. Peut-être ce qui est le plus difficile, c'est cette structure qui est permanente. Bon, 4 heures le matin, on se lève, et puis 9h15, le soir, on se couche. Il y a les offices, il y a le travail. Ça prend une très bonne santé. Et moi, durant le temps où j'étais, il y avait des choses qui changeaient, puis tout ça. Là, actuellement, la vie pour les novices, elle est plus facile. Mais quand on regarde, la plupart des moines, ce sont des fils de paysans, de cultivateurs. En tout cas, ils ont une
ils
santé,
costauds.
C'est ça. Et de toute façon, carrément, c'est que le Seigneur ne me voulait pas là. Mais ça a été une vocation temporaire qui était un tremplin pour autre chose.
Mais c'est à ce moment-là que vous commencez à vous intéresser à la poésie, que vous écrivez vous-même des poèmes.
C'est ça. Alors là, justement, pour la liturgie des laudes et des vêpres, il y avait les prières qu'on appelait litaniques. Et c'était composé par les moines. Et moi, on m'a demandé de commencer à en écrire. Alors, je me suis rendu compte qu'en écrivant, j'avais une joie extraordinaire. Pour moi, la joie, c'est très important. Et je ne pouvais plus, à un moment donné, ne pas écrire. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment une vocation d'écrivain.
Vous n'aviez jamais senti cette chose-là auparavant dans vos études?
Quand j'étais jeune, comme beaucoup de personnes, on écrit des poèmes de jeunesse ou des... Mais il n'y avait pas un attrait plus que ça. Mais là, à partir de la conversion, c'était comme une renaissance. Et je découvrais différentes réalités qui étaient en moi et qui ne demandaient qu'à s'épanouir. Et là, à Oka, le cadre aidant, bon, alors j'ai commencé à écrire... Et les prières étaient très bien reçues. Bon, alors, à l'hôtellerie, on demandait des textes. Et c'est là, justement, que les Heures en feu, entre autres, un des volumes, là, ce sont des textes, justement, de ce temps-là, là, des lots, des vêpres. une sorte de bréviaire que j'ai écrit, et puis c'était des textes de ce moment-là.
Est-ce que c'est à cause justement de cette expérience monastique, et l'expérience monastique dans un couvent qui est particulièrement près de la nature, de la terre, que, en général, vos poèmes reflètent, en tout cas, un goût de la nature, un amour de la nature, une proximité et une façon de vivre avec ses rythmes, si on peut dire?
Moi, je crois, je l'ai toujours eu, et je pense que je tiens ça de mon père.
Vous avez été bûcheron, même.
Oui, mais là, c'est quelques mois. Disons que c'est pas, c'est un projet Canada Travail. Alors,
c'est pas marquant.
Mais mon père, lui, est mesureur à la Consolidated Batters à Granville. Maintenant, il est à sa retraite. Et puis, de toute façon, il a toujours aimé la nature, la chasse et la pêche. Et moi, petit garçon, je l'ai toujours accompagné. Mmh. On est cinq chez nous, mais je pense que je suis celui qui aimait le plus la chasse et la pêche. En fin de compte, c'est un prétexte pour me noyer dans la nature. J'ai toujours aimé la nature et l'endroit d'où je viens, la Mauricie, c'est un très bel endroit pour ça. Et je pense que, je me souviens, tout petit, seul, je me promenais dans la forêt, puis je chantais toutes sortes de chansons que j'inventais. En réalité, c'était une poésie non écrite, mais c'était spontané. Et en découvrant tout ce monde spirituel du christianisme, et puis, ça prend un autre aspect. On découvre la présence de Dieu cachée dans la nature. Mm-hmm. Et c'est Saint Bernard qui disait que j'ai plus appris en regardant les arbres qu'en lisant les livres.
D'ailleurs, je disais que c'est une poésie qui parle de la nature, mais qui, à travers la nature, rejoint Dieu.
C'est ça.
C'est Dieu qui est l'objet.
C'est ça, justement. C'est que la nature cache, ou bien... je ne sais pas s'il y a un autre mot, en tout cas, de la nature transpire une présence de Dieu. Il est le Créateur, et ses œuvres nous ramènent à lui. Et c'est pour ça qu'actuellement, on sent qu'il y a un besoin, comme les lieux de pèlerinage, par exemple, sont toujours bien situés, il y a des jardins. Les gens aiment se retremper dans la nature. C'est gratuit, et souvent, si on laisse notre cœur parler, on se rend compte souvent qu'on est en communion avec quelqu'un qui nous dépasse. Mmh. Souvent, les grandes questions existentielles se posent dans ces moments-là de solitude et de silence. Moi, je pense que la nature, elle est pleine de Dieu.
Et de ce point de vue-là, quand même, on peut dire que vous êtes un peu un poète à contre-courant, parce que la poésie actuelle est beaucoup plus marquée par un intellectualisme dans la veine de Hölderlin.
Et c'est aussi une poésie urbaine, mais c'est ça, disons que c'est... je suis un être très concret, très près des réalités terrestres. Mm-hmm. Et je ne fais pas de haute voltige.
Mais alors, est-ce que vous n'êtes pas allé vous égarer en théologie à ce moment-là, justement, puisque vous parlez de haute voltige, vous parlez de concret?
Non, alors pour moi, la théologie, c'était tout simplement une façon de connaître Dieu, pour l'aimer davantage. C'est pour ça que je me suis aligné dans cette voie-là. Je ne savais pas, moi, que ça me mènerait au doctorat. Pour moi, c'était pour, disons, les grosses balles, entre parenthèses. Je ne me voyais pas.
Vous ne voyez pas professeur dans une faculté de théologie?
Non, bien ça, c'était plus tard, parce que quand on commence la théologie, se voir professeur de théologie, tout de suite au début...
C'était pas ça que vous visiez?
Non, non. Ce que je visais, c'était tout simplement de connaître davantage la Bible, Dieu, Jésus-Christ, tout ce monde-là. Disons que mon intelligence avait soif et que la foi qui m'habitait voulait être réfléchie. C'était en réalité la foi en quête de sens, d'intelligence, comme dit Anselme. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours vu la théologie plus comme une manière d'être, comme une sagesse de vie. Elle se rapproche beaucoup de la théologie monastique, parce qu'à Oka, c'était cette sorte de théologie-là qui était véhiculée. Mais quand je suis sorti, ça a été tout naturel pour moi d'une façon officielle, m'inscrire dans une institution. Alors, ça a été l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et j'ai commencé tranquillement à faire un bac. Mais en plein milieu du bac, lors de la naissance de Catherine...
Parce que vous êtes marié entre
ça. C'est ça. Alors, ça a été quand même assez rapide. J'ai rencontré mon épouse dans une maison de prière, et puis on s'est reconnus. Et là, alors, j'ai écrit tout un recueil justement sur cette rencontre-là. Ça s'appelle « La rencontre de mai », parce que c'est le 1er mai qu'on s'est dit qu'on s'aimait. Et puis, à travers elle, je rejoignais aussi un autre visage de Dieu. C'est que tout l'amour que je chantais dans mes poèmes, maintenant, je pouvais lui donner un visage de chair. Et je pouvais employer des expressions très audacieuses, comme le Cantique des Cantiques, mais qui renvoyaient toujours à l'éros divin, qui débouche...
Au désir divin.
Justement. Mm-hmm. Qui débouche à l'agapé, à un moment donné, au don aussi. Mm-hmm. Et ça a été une très belle
période. Et ça reste quand même l'expérience fondamentale de votre...
Ah oui, ça c'est une expérience fondamentale, la découverte de l'amour humain. Je ne pensais pas que ça m'arriverait comme une grâce.
Et dans votre cas, la découverte aussi d'une voie vers la sainteté.
C'est que, justement, c'est un chemin. Je pense que, comme Vatican II l'a dit, tous sont appelés à la sainteté. Et c'est une voie qui, dans la reconnaissance, l'action de grâce des corps que nous avons, de la tendresse manifestée, mais aussi des fois des crises qu'on vit, des disputes, toute la réalité familiale, c'est un chemin de sainteté, je pense, et on le vit au jour le jour, sans se prendre pour d'autres.
Je viens de vous lancer sur une piste un peu difficile, parce que peut-être que certaines personnes qui nous entendent vont dire, mais la sainteté, c'est pas très enthousiasmant, n'est-ce pas? Ça doit être un mariage plutôt ennuyeux avec les gens.
Non. Le plaisir a sa place, la joie a sa place. Je vous le dis, c'est une spiritualité d'action de grâce. Un saint triste, ce n'est pas un vrai saint. Mm-hmm. Le saint déborde de vitalité, de joie, puisqu'il témoigne du Dieu de joie, de cette joie que le Christ est venu apporter par son esprit et que personne ne peut nous ravir. Mm-hmm. C'est une joie qui transcende la mort. Et quand on a, je dirais vraiment le mot, la grâce de rencontrer une personne qui vit cette même dimension spirituelle, à ce moment-là... Disons qu'on vit un projet commun, c'est pas toujours facile. Il y a des obstacles, il y a des crises comme dans tout couple, parce qu'une vie de couple, ça se bâtit. C'est un projet qu'il faut à tous les jours reprendre, apprendre à dialoguer, tout ça. Mais ça se vit, je dirais, dans une dimension peut-être où des valeurs comme le pardon, la patience, la tolérance, le respect mutuel, l'accueil des différences... On dirait qu'on est comme provoqué constamment à vivre ça à cause des valeurs évangéliques. Mm-hmm. Traduire l'autorité parentale, par exemple, en service, comme le Christ nous a demandé, en fin de compte. Faire place à l'enfant, l'ouverture à la vie. Alors, tout ça, ce sont des réalités, je pense, qui débouchent d'une vision de foi chrétienne.
Mm-hmm. Vous êtes professeur de pastorale, et précisément, ce dont vous parlez, ce dont vous enseignez, c'est de la pastorale familiale.
C'est ça. En réalité, ça touche à la vie de couple, la famille. Je donne aussi le cours pastoral liturgique, mais je développe aussi les liturgies familiales. Je donne le cours théologie du mariage.
Mais justement, enfin, ce que j'essaie de comprendre, là, je pense que le fond du problème est le suivant. Oui. C'est que dans ce cours, n'est-ce pas, vous êtes dans une faculté catholique, si je ne me trompe pas. Donc, vous devez enseigner la doctrine de l'Église catholique.
Pas nécessairement. Bien, on présente la doctrine, mais on essaie de la comprendre. Mais on tient compte des différentes réalités de ce que les gens vivent, par exemple, comme le divorce, les familles monoparentales. Alors, c'est pour ça que l'Institut pastoral, c'est interdisciplinaire. Il y a des professeurs en psychologie, parce qu'il y a un très gros centre de counseling à l'Université Saint-Paul. Il y a des professeurs de sociologie, de psychologie et puis de théologie. Et on travaille ensemble. Mais on n'est pas une courroie de transmission du magistère. Je ne veux pas dire par là qu'on n'est pas d'accord avec ce que le magistère dit. C'est qu'on regarde. En réalité, ce que j'essaie de vivre avec les étudiants, c'est de réfléchir sur un certain discours.
Certaine expérience.
C'est ça. Oui. Et moi, je me considère plus témoin que professeur. C'est que mon expérience transpire dans ce que je transmets. Mais c'est certain que la position de l'Église, alors, prend une place. Mais il y a des positions d'autres théologiens. Et la position, je dirais, pastorale, c'est-à-dire de la pratique des gens, de cet agir de l'Église qui est devant moi par le biais des étudiants et étudiantes. Alors, on tient compte de ça. Et vu que ce sont des cours au niveau gradué, des cours de maîtrise, alors les étudiants prennent beaucoup de place. Ils font des travaux, souvent des études empiriques. Mm-hmm. Et c'est très intéressant.
Mais dans quelle mesure, justement, vous puisez à votre expérience? Dans quelle mesure il vous est possible, dans une chair de faculté, oui, de ne pas être simplement quelqu'un qui tire des lignes droites, enfin, qui établit des principes, qui enseigne d'une façon, comme on dit, objective, neutre, laïque, employez le mot qu'on veut. Et dans quelle mesure...
De toute façon, même si on voulait faire ça, là, comme vous dites, les étudiants tout de suite réagiraient. Les étudiants ont leur vécu, ont leurs questions, leurs besoins. Et eux, justement, remettent en cause une forme d'enseignement qu'on peut avoir. Si je prends position pour telle chose comme moi, par exemple, Anne-Marie et moi, on vit une méthode naturelle de naissance, on trouve ça épanouissant, mais on ne l'impose pas à personne. Bien, c'est sûr, dans mon cours, j'en parle, mais il y a d'autres méthodes aussi. Mais à ce moment-là, quand j'en parle, nécessairement, les gens, il y a une réaction aussi. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut faire confiance à l'être humain.
Vous avez fait des choix, mais vous acceptez que d'autres fassent des choix.
Moi, je pense que dans l'Église et dans la société, une valeur qui est fondamentale, c'est la tolérance. Être assez respectueux de la liberté de l'autre pour lui faire confiance, ne pas forcer. Parce que c'est en plein comme ça que Dieu agit envers nous. C'est lui qui nous rend libres, mais il respecte notre liberté. Il attend. Notre Dieu est un Dieu d'une patience infinie et il croit en nous beaucoup plus que nous croyons en lui, d'ailleurs. Et il espère en nous beaucoup plus que nous espérons en lui, comme dit Peggy dans le Porche de la deuxième vertu. Là. Et toute cette dimension de respect, d'amour de l'autre, bien, je pense que ça se manifeste aussi dans un enseignement. On propose des choses. Alors moi, quand je dis, bon, mais personnellement, c'est comme ça, ce n'est pas une sorte de je pars pas en croisade. Mmh. Et de toute façon, actuellement, ça ne passe pas, ça.
Mais vous savez très bien qu'actuellement, quand même, il y a un magistère de l'Église qui parle beaucoup de ces questions de morale familiale, sexuelle, etc. Oui. Et vous savez aussi qu'un certain nombre d'auditeurs de ce discours, même des auditeurs qui se disent chrétiens, se sentent assez mal à l'aise devant ce qui est vu souvent comme un discours qui n'a pas de racine dans l'expérience.
C'est qu'on part souvent des principes et puis on essaie d'appliquer les principes à la vie au lieu d'avoir une démarche pastorale, c'est-à-dire de partir de la vie et de rejoindre les principes. Par contre, il faut toujours se dire que l'Église propose un idéal et que nous sommes des êtres en croissance, en cheminement. Mais en fin de compte, chacun est renvoyé à sa conscience. Mais de toute façon, ce que vous dites, je sais que ça ne répond pas à la question. Ça demeure quand même un problème actuellement. Et Dieu sait qu'à partir du Manivité, par exemple, l'Église a perdu énormément de gens. Et si l'Église était aussi ouverte qu'elle l'est dans sa morale sociale, par exemple, ça serait une autre dimension. La morale sexuelle de l'Église, il y a beaucoup de gens, justement, qui ont de la misère.
Et vous savez très bien que, justement, qu'il y a des gens qui trouvent que le Christ est un personnage extraordinaire, que le Christ peut être extrêmement stimulant pour une action sociale, justement. Oui. Mais quand ils se trouvent devant ce discours de l'Église sur la morale sexuelle, ils disent, mais non, ça ne va pas, ça ne correspond plus à la réalité. Est-ce que vous sentez ça?
C'est parce que les gens, je pense, qui se sentent comme atteints dans leur intimité. Il faut se poser la question, est-ce que l'Église vraiment a affaire dans la chambre à coucher? Elle pose des principes selon, justement, certaines données, des concepts comme la loi naturelle. Mais la loi naturelle, elle est tellement interprétée de toutes sortes de façons par les théologiens qu'à ce moment-là, c'est certain qu'il y a une prise de position là, contre le magistère. Et moi, de toute façon, là-dedans, je veux dire, comment je me situe, c'est que nous autres, on essaie de vivre l'Évangile, et au plus profond de nous-mêmes, tel geste que l'on fait, tel acte, on se rend compte si c'est porteur de paix ou non, si ça nous éloigne de l'intimité ou non.
Enfin,
parce que le couple a quand même son autonomie aussi.
Un exemple public, Jacques Potier, vous avez quatre enfants.
Oui.
C'est quand même une décision grave d'avoir quatre enfants. Oui. Quand on est professeur d'université, on ne gagne pas des centaines de milliers de dollars. J'imagine que probablement votre femme est à la maison. C'est à peu près ça, hein?
Elle a assez d'ouvrages pour être à la maison.
Ça ne doit pas être facile de rejoindre des deux bouts, ça?
Non, il n'y a eu aucun problème. Mais ça fait pas tellement longtemps quand même que je travaille à l'université. Il n'y a jamais eu de problème de ce côté-là. Moi, je pense que c'est une question de foi au sein de la Providence. Mais ça, c'est personnel. Moi, j'ai une confiance absolue en Dieu et je sais qu'il m'aime et qu'il guide, en fin de compte, ma famille. Et au niveau, quand j'ai entrepris des études doctorales, entre autres, je visais même pas un poste à une université. Le but, c'était de publier une étude sur Patrice Latour-Dupin. C'était l'objectif que je m'étais fixé. Bon, si le salaire entre, alléluia, tant mieux, mais nous n'avons jamais manqué de rien.
Oui.
Ce n'est pas le côté préoccupant. Par contre, 4 enfants, là, ça pose question. Est-ce qu'on est irresponsable? Est-ce qu'on s'est fait jouer des tours?
Mais ça pose aussi des questions par rapport à une société.
Oui. Alors, les 4 enfants, on les a voulus, et je peux vous dire que la porte n'est pas encore fermée, si je peux employer une expression. C'est qu'on a pris conscience, mon épouse et moi, d'une façon assez forte, que ce qui nous épanouissait le plus, et surtout la mission qu'on avait, c'était justement de donner la vie. Moi, bon, j'ai écrit des livres, j'ai fait un doctorat, je suis professeur de théologie. Mais qu'est-ce que je suis au fond et qu'est-ce qui va rester après moi? Je suis que poussière, même si je suis créé à l'image de Dieu. Bon, je vais retourner vers mon Créateur. Mais le fait d'être, bon, peut-être l'expression est même un peu piégée, d'être co-créateur, d'être pro-créateur, c'est-à-dire de collaborer à l'œuvre de la création, c'est-à-dire d'engendrer des êtres d'éternité, c'est très valorisant. Et les enfants actuellement, alors, c'est de 9 ans, la dernière Isabelle, elle a 7 mois. Ce sont de beaux enfants, elles nous donnent beaucoup de joie, des fois des moments d'impatience et de colère, parce que des fois c'est fatigant, des enfants. Mais il reste que, moi, je me rends compte que ce sont des passages de Dieu. Il y a 2 semaines, par exemple, je lisais mon journal sur la table, et puis mon dernier, le troisième chrétien qui a 2 ans et demi. Alors, papa, alors, il dit, papa, il lit son journal, viens toi aussi lire. Alors, il amène ses petits livres, puis il regarde, puis on est resté 1 heure comme ça. Alors, je lisais mon journal, et puis lui, il lisait ses livres, il me regarde, puis il dit, papa, je t'aime. Ça, c'est extraordinaire quand un enfant vous dit ça. On a de la misère, nous, les adultes, de dire « je t'aime ». Alors moi, c'était comme si c'était Jésus qui me disait « je t'aime ». Parce que un enfant ne ment pas. Pourquoi qu'il a dit ça comme ça? Alors, c'est des moments comme ça, et je me dis, moi, c'est pas seulement pour la vie terrestre, ces enfants-là. Alors, c'est certain que ça donne tout un sens, mais il faut dire aussi que nous avons une grande maison. Bon, alors, on peut les accueillir. Actuellement, les maisons sont tellement petites que je comprends très bien que les gens peuvent se limiter à 1 ou 2 enfants. Et de toute façon, ça, c'est une question personnelle. Mais quand les gens voient nos enfants, c'est merveilleux.
Jacques Gauthier, je vous remercie.